France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on reviendra tout d'abord sur les circonstances encore floues de la mort samedi dernier de Quentin Derenck, tabassé lors d'une rixe entre groupuscules radicalisés à Lyon et qui nourrit depuis une tempête politique. Un quart de siècle de débats sur le sujet n'ont toujours pas tranché la question. Les deux propositions de loi sur la fin de vie seront examinées à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. À suivre également notre entretien avec le journaliste et écrivain italien Roberto Saviano, et puis on se rendra en Russie 2 ans jour pour jour après la mort du charismatique militant anticorruption Alexei Navalny. 2 jours après le décès du jeune Quentin Derenck, 23 ans, ce militant nationaliste proche du collectif identitaire d'extrême droite Némésis, ancien membre du mouvement royaliste Action Française, lynché 48 heures plus tôt à Lyon lors d'affrontements entre groupuscules radicalisés. Le contexte reste aujourd'hui plus que jamais inflammable. Alors les circonstances exactes de ce drame en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan, comme l'identité des agresseurs, doivent encore être déterminées. La justice dit avoir recueilli des témoignages significatif. Le procureur de la République tiendra d'ailleurs cet après-midi une conférence de presse pour les exposer, mais en attendant, déjà les anathèmes fusent, les récits politisés s'affrontent, renvoyant dos à dos des courants et une rhétorique qui, à force de nuances sémantiques, participe surtout à la confusion générale. Chloé Leprince, bonjour.
Bonjour.
Hier, Gérald Darmanin a explicitement accusé l'ultra-gauche, sauf, Chloé, qu'il n'y a pas de définition de ce qu'est l'ultra-gauche.
Oui, pas de définition scientifique, ni pour les intéressés. Hein. Les enquêtes sérieuses montrent sans ambiguïté que personne ne se reconnaît d'ultra-gauche. C'est plutôt un mot du pouvoir, de la police, un mot des médias. Le terme se propage en 2008 avec l'épisode des sabotages de caténaires de la SNCF. On appellera ça l'affaire Tarnac. Traditionnellement, on a plutôt dit ultra-gauche pour faire le distinguo avec l'extrême-gauche et avec les partis politiques de gauche. Sauf que ça n'a jamais été très précis. L'expression d'ailleurs, c'est plutôt mouvance ultra-gauche. La grande percée de l'ultra-gauche, c'est sous Nicolas Sarkozy, avec notamment le criminologue Alain Bauer, mais c'est aussi un mot de la gauche sous François Hollande. En 2012, Manuel Valls, à l'intérieur, menace les groupes d'ultra-gauche de dissolution, quitte à brasser pêle-mêle des militants anarchistes, des écologistes radicaux, des autonomes, des mouvements des squats. Le terme reprendra du service au début des Gilets jaunes, mais en fait, il s'est opacifié avec le temps, car historiquement, il avait plutôt les deux pieds dans le mouvement ouvrier. Dans les années 20, il désignait des courants communistes, marxistes, minoritaires, plutôt anti-staliniens, avant d'englober les situationnistes dans les années 60 ou les partisans de l'action directe dans les années 70. C'est son usage par la police, par le personnel politique qui en a fait autre chose.
Et puis pour décrire Chloé, des groupes, cette fois-ci à la droite du Rassemblement National, on parle d'ultra-droite.
Oui, depuis les années 70. Le terme n'a pas une trajectoire linéaire. Apparition dans les années 70, pic à la fin des années 90, somnolence, puis son usage repart dans les années 2010. C'est d'abord un mot de la police, des renseignements généraux, rappelle Jean-Yves Camus à la tête de l'Observatoire des radicalités. Ça tient notamment à une réforme du renseignement qui remonte à 1994 et une interdiction d'enquêter sur les partis politiques. Mais la surveillance des activistes et de potentiels terroristes, elle, a perduré. Ultra-droite, c'était une façon un peu artificielle, mais commode, de distinguer des groupes violents qu'on continue à infiltrer et puis l'extrême droite comme mouvement politique. Et puis le mot ultra-droite va se généraliser autour de 2012, sous le quinquennat Hollande, mais pas dans le monde académique. Il n'y a pas non plus de définition scientifique de l'ultra-droite. L'historien Nicolas Lebourg, spécialiste de l'extrême droite, parle d'un usage abusif par les médias. L'expression circule massivement après les attentats commis par Mohamed Merah en 2012, quand on hésitait encore à attribuer ces crimes à la mouvance djihadiste ou au milieu néofasciste. Pour longtemps, ce sera le pic du nombre d'occurrences de l'ultra-droite dans les médias.
Merci Chloé Leprince. Alors sans attendre les conclusions de l'enquête, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a déclaré hier que l'ultra-gauche était manifestement à la manœuvre dans ce lynchage manifeste, avant d'évoquer ce matin la possible implication d'un mouvement antifasciste dissous l'an dernier baptisé la Jeune Garde, fondée par le député LFI Raphaël Arnaud, d'où la tempête politique qui s'en est suivie, avec notamment une forte pression exercée sur la France Insoumise qui se retrouve désormais accusée d'avoir nourri la violence violence politique à l'origine de cette agression. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
De son côté, Jean-Luc Mélenchon se défend de toute responsabilité. Il a d'ailleurs réagi en tenant à exprimer la sidération, l'empathie et la compassion des insoumis après l'agression du jeune homme.
Un message également relayé par le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, hier sur LCI. Manuel Bompard qui a dédouané le député insoumis Raphaël Arnaud, cofondateur du groupuscule La Jeune Garde, et qui a éludé la question sur le collaborateur parlementaire de celui-ci, soupçonné d'avoir été présent lors du lynchage.
Est-ce que Raphaël Arnaud vous a indiqué qu'il n'y avait pas la présence de son collaborateur sur place?
Mais Raphaël Arnaud m'a dit, et j'en ai la démonstration et la certitude, puisque j'étais à ses côtés, qu'il n'était pas présent. Pour le reste, je n'en sais rien, et il me paraît évident que si un collaborateur parlementaire, quel qu'il soit, devait avoir une responsabilité dans ce drame, il me paraît certain et évident qu'il ne peut plus être collaborateur parlementaire de qui que ce soit.
En attendant les éclaircissements du procureur de Lyon cet après-midi, l'accès du collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale a été suspendu ce matin. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, vous en parliez tout en restant prudent sur l'implication de la Jeune Garde dans cette affaire, a rappelé ce matin sur France Inter les liens de ce groupuscule avec la France Insoumise.
Le lien entre la France Insoumise et la Jeune Garde, il est très fort, il ne faut pas le nier. Il y a quelques jours encore, la France Insoumise me demandait, enfin demandait au gouvernement de renoncer à la procédure de dissolution en cours qui doit donner lieu à une décision du Conseil d'État. Donc il y a des liens extrêmement forts entre la France Insoumise et la Jeune Garde. Et ça fait partie des éléments que j'ai pris en compte d'ailleurs pour nuancer, je dis bien nuancer, hein, et non pas étiqueter, la France insoumise à l'extrême gauche de la vie politique française pour les blocs de nuance.
Le ministre fait référence au fait qu'il a attribué il y a quelques jours le qualificatif d'extrême gauche au candidat de la France insoumise pour les élections municipales des 15 et 22 mars. Cette affaire et les accusations de proximité avec un groupuscule potentiellement violent est un problème pour les insoumis et pourrait être préjudiciable électoralement, car le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a décidé de faire de ces élections, contrairement aux précédentes en 2020, un enjeu majeur est de présenter le plus de candidats possible avec l'idée de s'implanter localement.
Merci Stéphane Robert. J'ajoute qu'une marche d'hommage a été annoncée pour samedi prochain à Lyon à l'initiative du groupe nationaliste révolutionnaire Audace, un groupuscule d'ultra-droite qui prétend défendre les intérêts des Français d'ascendance européenne et dont Quentin de Ranque était un sympathisant.
C'est un sujet sensible sur lequel le débat sémantique apparaît lui aussi central.
Euthanasie, suicide assisté, aide à mourir, les députés s'empareront à nouveau à partir d'aujourd'hui de la législation sur la fin de vie érigée en priorité par Emmanuel Macron. Une étape de plus sur le chemin législatif décidément tortueux de cette réforme sociétale majeure. Un vote solennel est prévu le 24 février et ses partisans espèrent la voir aboutir avant l'été dans un calendrier parlementaire qui s'annonce toutefois chargé. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Alors cette législation comporte en réalité deux textes, l'un extrêmement sensible sur la création spécifique d'un droit à l'aide à mourir, et puis un autre que l'on croyait plutôt consensuel sur les soins palliatifs. Or, à l'évidence, il n'en est rien. Deux points importants en particulier ont été modifiés. Le premier Tara porte sur le droit opposable aux soins palliatifs.
Un droit voté par les députés en première lecture pour garantir à chacun un véritable accès avec la possibilité de saisir la justice en référé si l'on estime que ce droit est bafoué. Or, le Sénat a supprimé ce droit opposable et la Commission des affaires sociales à l'Assemblée ne l'a pas rétabli. Le RN en particulier parle d'un droit de principe purement théorique. On sait de fait que 21 départements n'ont aucun service de soins palliatifs en France. À voir si la mesure est finalement votée pendant les débats.
Et puis le deuxième point, donc Tara, concerne la création des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs.
Oui, soutenu par le gouvernement, le rapporteur du texte, le député Horizon François Gérignon, a ouvert ce dispositif aux établissements privés à but lucratif, alors que l'idée avait été rejetée en première lecture. L'ensemble des députés ont souligné, pendant les débats en première lecture, le danger de confier à des groupes privés qui cherchent à faire des profits les derniers jours des mourants. En commission, LFI a dénoncé un futur scandale, je cite, d'un Orpea de la fin de vie. Les socialistes, eux, ont rappelé les enquêtes qui ont montré des dérives sur l'accueil de la petite enfance et du grand âge. Mais de façon assez ubuesque, l'article 10 qui créait ces maisons a fini par être supprimé, alors qu'il s'agissait quasiment du cœur de la proposition de loi. Au moment où les débats vont reprendre, il est certain que cette question des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs sera très débattue.
Merci Tara Schlegel.
Comment mieux comprendre la pratique juridique en matière de crime organisé ?
La France jugeait la semaine dernière sa toute première affaire emblématique de tueurs à gages, ces mineurs recrutés sur Internet par les réseaux de criminalité organisée. Or, parallèlement, voilà qu'un programme est actuellement en cours pour tenter de dresser une cartographie du trafic de stupéfiants de haute intensité et des actions judiciaires mises en œuvre. Et pour nourrir ce travail, eh bien, les chercheurs ont récemment invité le journaliste et écrivain italien Roberto Saviano, lequel a mis à nu le système mafieux de son pays, afin qu'il leur apporte donc son regard, la compréhension de ce phénomène. Anne Fauquemberg a pu le rencontrer à cette occasion, il est aujourd'hui l'invité de la rédaction.
Bonjour Roberto Saviano.
Buongiorno.
Vous êtes en France tout ce mois de février, vous participez comme chercheur invité à un programme de recherche organisé par l'Institut de Criminologie et de Droit Pénal à Paris. Un programme de recherche qui étudie le phénomène de la criminalité organisée en France à travers l'activité depuis 2004 des juridictions spécialisées sur ce thème. Pourquoi c'est important que le monde intellectuel français se mobilise et évalue ce qui se fait dans la pratique judiciaire ?
Quello che sta accadendo è che ci si è svegliati in Francia dopo 40
anni. Ce qui se passe, c'est que la France se réveille après 40 ans de véritable endormissement. Il est vrai que les Français se sont consacrés essentiellement au terrorisme. Et finalement, cette attention à la criminalité organisée a été déclenchée par la violence. Le problème, c'est que la violence n'est que le début. Ce qui est ignoré encore pour l'instant, c'est tout ce pouvoir financier et économique du narcotrafic. C'est pour cette raison qu'il est fondamental que les intellectuels s'emparent du phénomène et qu'ils le racontent. Le monde politique, pour l'instant, l'ignore, même si on s'aperçoit qu'il y a quelques changements à l'œuvre.
Vous avez rencontré le militant politique Amin Kessassi après la mort de son frère, Mehdi, il y a quelques mois. Un crime qualifié de possible crime d'intimidation. Amin Kessassi est aussi aujourd'hui toujours clairement menacé. La France est-elle devenue un narco-État ? A-t-elle basculé sous l'emprise de la criminalité organisée, tout comme les Pays-Bas, menacés par la mocro-mafia depuis une dizaine d'années ?
L'assassinat du frère de cet activiste qui a eu lieu à Marseille, ça ne fait aucun doute, c'est un meurtre par intimidation. Mais cela ne se serait pas produit si ce jeune homme n'appartenait pas à ce quartier-là et s'il n'y avait pas eu un frère qui était mouillé dans le trafic de stupéfiants. Car le premier frère d'Amin Kessassi, qui a été tué, était impliqué dans le trafic. Cela permet aux organisations mafieuses de considérer que ces personnes font toutes partie du système. Amin a beau être activiste qui lutte contre le narcotrafic et son petit frère, le cadet, ne pas avoir de lien dans ses affaires, le cartel ou les cartels les considèrent comme des membres et c'est exactement ce qui se passe en Italie. Tu appartiens à mon territoire, tu es sur mon territoire, donc tu fais partie de mon système. Tu fais partie de moi, carrément. Alors il est clair que la France n'est pas un narco-État comme en Amérique latine. Par contre, vous faisiez un parallèle avec les Pays-Bas et là, on y est. On est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on voit des organisations criminelles tout à fait structurées et très présentes sur le territoire, avec des soldats mafieux qui sont essentiellement d'origine africaine. Mais l'argent mafieux est sur des plateformes financières françaises. Alors, tout dépend où on place le regard, vers quoi on tourne le regard. Si tu regardes dans une seule direction, dans un seul sens, eh bien tu considères que le phénomène est extrêmement limité.
Alors, vous allez participer ce soir à une conférence débat avec Vanessa Perret, la chef du PNACO, le parquet anticriminalité organisée qui vient d'être créé en France. Pour cette conférence, vous allez partir de l'expérience du pool antimafia italien, ce groupe de magistrats instructeurs du parquet de Palerme en Sicile, qui dans les années 1980 ont créé de nouvelles stratégies d'enquête pour lutter contre la mafia sicilienne et dont faisait partie notamment le juge Falcone auquel vous consacrez d'ailleurs votre dernier livre. Quel message souhaitez-vous faire passer aux magistrats français ?
Que la strada iniziata è buona. Iniziare ad avere procure specializzate.
C'est un bon début. Ils sont sur la bonne voie. Il faut se doter de parquets entièrement spécialisés. Il faut aussi essayer de faire comprendre aux politiques, mais aussi à l'opinion publique, que les enquêtes sur la criminalité organisée sont de longues enquêtes. Les tout premiers résultats demandent au moins 3, voire 5 ans. Donc il faut se doter de nouveaux outils d'enquête dans le respect total de la vie privée. Et puis, il faut aussi pouvoir enquêter sur les politiques. En Italie, il y a ce délit de complicité extérieure d'association mafieuse. Pour un Français, c'est du chinois, je le comprends, mais il s'agit d'un délit fondamental pour faire tomber un politicien qui a des liens avec la mafia sans en faire partie. Et ça, c'est ce qui manque en France. À qui profitent ces masses d'argent d'un point de vue politique et économique, bien sûr ? C'est de la responsabilité des magistrats de faire germer une nouvelle culture de lutte contre la mafia. Alors c'est intéressant de voir comment le président Macron essaye de responsabiliser les citoyens. Le Français aisé qui, en achetant de la drogue, finalement, porte préjudice aux banlieues. C'est un récit intéressant et il n'est pas faux, mais il ne suffira pas. On ne peut pas responsabiliser exclusivement les consommateurs. La responsabilité doit être élargie. Ce doit être une responsabilité du système économique et politique. C'est ce qui manque.
Merci Roberto Saviano.
Grazie molte, grazie molte.
Alors Roberto Saviano, journaliste écrivain italien, il répondait à Anne Fauquemberg.
Midi et 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
C'était il y a 2 ans, jour pour jour, Alexeï Navalny était retrouvé mort dans une colonie pénitentiaire perdue au fin fond de l'Arctique. Or, samedi dernier, 5 pays européens ont indiqué qu'une toxine mortelle rare avait été détectée lors d'analyses en laboratoire de prélèvements issus de son corps, ou dit autrement, le farouche opposant au Kremlin aurait été empoisonné. Comme attendu, Moscou juge ce matin infondées les conclusions de cette enquête. Quoi qu'il en soit, quelques dizaines de personnes dont la mère de l'opposant ont pris le risque ce matin de se recueillir sur sa tombe recouverte de centaines de fleurs. Notre correspondant Sylvain Tronchet s'est rendu sur place.
Comme l'an dernier, Lyudmila Navalnaya est venue se recueillir sur la tombe de son fils. Courte cérémonie religieuse, par moins 15 degrés, en présence d'une centaine de personnes, la mère de l'opposant réclame justice pour son fils. Pour elle, il est clair qu'il a été empoisonné et nous finirons par découvrir qui l'a fait, dit-elle avant de repartir. Un avis partagé par Artyom, 18 ans, qui n'a pas été surpris par les révélations de ce week-end.
Je pense que c'était déjà clair, mais le mode opératoire précis et la toxine utilisée n'avaient pas été identifiés. Pour moi, ce n'est pas vraiment une révélation, c'est juste une clarification des circonstances.
Les services de sécurité restent à distance du cimetière, mais la surveillance est palpable. Malgré cela, dès l'ouverture, certains attendaient une fleur à la main. Irina, une retraitée, était déjà là l'an dernier. Elle est venue soutenir la mère d'Alexeï Navalny.
C'est très difficile pour une mère de perdre ses enfants, de les élever dans l'honnêteté et la dignité, et ensuite, malheureusement, d'en payer le prix. Les principes moraux les plus élevés doivent parfois être défendus au prix de sa vie pour ne pas avoir peur.
La peur, malgré tout, empêchera d'autres Russes de venir aujourd'hui pendant la cérémonie, alors que le Kremlin démentait les accusations d'empoisonnement. À 1500 km de là, un ancien militant d'Alexeï Navalny était condamné à 2 ans et demi de prison.
Un reportage signé Sylvain Tronchet.
La deuxième semaine des JO d'hiver de Milan Cortina a débuté ce matin.
Avec en particulier les épreuves de slalom homme en ski alpin. Et parmi les compétiteurs au départ, on trouvait notamment un certain Richardson Viano, lequel vient d'ailleurs de se qualifier pour la deuxième manche. Un skieur haïtien arrivé en France à l'âge de 3 ans, qui a grandi dans les Hautes-Alpes. Et qui pour la deuxième fois représente donc son pays aux Jeux Olympiques d'hiver avec un autre de ses compatriotes, Stevenson Savard. Lequel est lui très vite devenu par son talent et son parcours la coqueluche du public. Alors la petite délégation, 2 athlètes seulement, s'était déjà faite remarquer lors de la cérémonie d'ouverture grâce à ses tenues, des uniformes créés par une styliste italo-haïtienne, Stella Jean, en partie censurée d'ailleurs par le CIO. Une décision Marion Ferrière qui a aussitôt fait entrer Haïti dans l'histoire de ces Jeux.
Parmi les symboles haïtiens choisis par Stella Jean pour sublimer les uniformes des athlètes, il y a les turbans imposés aux femmes esclaves ou encore les créoles, seuls bijoux qui leur étaient autorisés à porter.
Rien a été laissé à l'hasard parce qu'on avait la responsabilité de tout dire dans cette tenue et on a profité de chaque centimètre de tissu avec de la joie, avec de la positivité.
Mais initialement, il y avait aussi la représentation de Toussaint Louverture sur son cheval.
Un des pères de l'indépendance haïtienne.
Un élément jugé trop politique par le Comité international olympique. Après 8 mois de conception, il a donc fallu s'adapter rapidement car impossible de refaire les tenues.
Ce qu'on a pensé, c'était de repeindre complètement les uniformes. C'était la première fois qu'on faisait de la peinture sur des tissus techniques, synthétiques, on va dire. On ne savait pas s'ils allaient tenir la pluie. La pluie était prévue, donc on a brillé.
Des uniformes devenus historiques, une véritable fierté pour Stella Jean.
Quand il s'agit de art, de culture et histoire, Haïti n'a rien à craindre.
Un message de résilience également porté par les athlètes sur les pistes, comme Stevenson Savard, premier skieur de fond haïtien au JO, ovationné par le public lors de l'épreuve de skiathlon. Thierry Montillet, le secrétaire général et le cofondateur de la fédération en 2010.
Le message qui a été passé est d'une force force extraordinaire. On a eu des retours du monde haïtien. Et donc, ça veut dire que dans la vie de tous les jours, eh bien, si les Haïtiens ils décident de le faire, d'aller remuer leurs tripes et puis d'aller lutter contre les gangs, ils seront en capacité de revenir sur des choses positives.
Et avec cette deuxième participation lors des Olympiades d'hiver, la délégation haïtienne veut désormais être prise au sérieux.
Voilà, c'est plus une anecdote. On est dans le sérieux, on est dans la continuité. On va aller encore plus loin.
Plus loin, en 2030, où Haïti espère sélectionner cette fois un skieur pour l'épreuve de descente.
Et je précise que ces uniformes pourront être de nouveau admirés dimanche lors de la cérémonie de clôture. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Toujours instable sur les trois quarts du pays. La vigilance pour crues, inondations ou avalanches a été prolongée. Elle concernera encore 23 départements. Quant au départ aux températures, elles seront comprises entre 6 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Mathieu Laurent pour le prochain journal de la rédaction.